L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 229e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis avec Pierre. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Et avec personne qui était technicienne de la face B à l'époque où il y avait la face B. Et je fais le plaisir de sa visite aujourd'hui. Bonsoir François.
Bonsoir.
Comment tu vas?
Bah, ça va bien, content d'être ici avec vous.
Bah, content d'être avec toi ce soir.
Ça fait très longtemps que j'étais pas revenu.
Il a vu la lumière, il est rentré.
Il a vu la lumière, il est rentré. Et... En tout cas, content que tu puisses participer avec nous. Donc tu interviens, François, avec à force de parler avec Pierre dans cette émission. Maintenant, j'appelle tout le monde Pierre, tout interlocuteur. Sébastien, la dernière fois que j'ai fait l'émission avec lui ici, je l'ai appelé Pierre pendant une demi-heure. C'est donc l'heure des actualités des deux semaines écoulées. Et on va commencer plutôt par une bonne nouvelle. Non, franchement, une bonne nouvelle. L'Union européenne, donc le tribunal de l'Union européenne, situé à Luxembourg, a validé une amende de 2,4 milliards d'euros contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. C'est une information qui a été publiée notamment par le journal Le Monde. Donc 2,4 milliards, ça devient quand même une amende sérieuse. Hein. On n'est pas dans les quelques millions d'euros qui peuvent évidemment paraître importante. C'est important pour le commun des mortels, mais pour une entreprise qui brasse des milliards et qui a des chiffres d'affaires considérables comme Google, c'était quand même plutôt, je dirais, une goutte d'eau dans l'océan. Donc, quelle pratique anticoncurrentielle en particulier, puisque bon, Google, c'est quand même les spécialistes entre imposer Chrome pour utiliser les services Google, c'est un petit peu à la Microsoft, ou encore sur la publicité. Là, c'est plutôt sur son comparateur de prix, Google Shopping. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui est à la mode hein, sur Internet, les comparateurs de prix pour notamment tout ce qui est les voyages, hein, les hôtels, les avions, ce genre de choses. Là, non, donc c'est pour Google Shopping. Donc, tout simplement, Google mettait en avant son propre comparateur lorsqu'on faisait une recherche. Évidemment, c'est un moteur de recherche. Et ça va, si ça a des activités annexes, ils vont mettre en avant leurs propres résultats. Ce qui paraît fort logique, mais ce qui est fort condamnable.
Effectivement.
Et sachant que là, du coup, c'est uniquement sur le comparateur de prix. Google pourrait très bien se faire attaquer sur l'intégration de Google Maps, sur l'intégration de YouTube, sur toutes les intégrations qu'ils s'amusent à faire dans leur logiciel. C'est bien d'être une entreprise, d'avoir plusieurs services et de les intégrer les uns aux autres, sauf que du coup, quand on est dans une situation de monopole sur un marché, on devient de facto un joueur avec d'autres règles. On n'a plus le droit d'intégrer comme on veut parce que sinon, on détruit toute forme de concurrence. Il ne peut plus rien avoir d'autre que vos produits.
Ben c'est ça, comme par exemple, en fait, quand si tu fais une recherche sur un artiste ou une musique, en fait, tu vois apparaître en premier en fait, le clip en fait, qui est sur YouTube, par exemple.
Voilà, et ce n'est pas une question de référencement, c'est une question de choix de la part de Google aussi dans pas mal de cas.
Alors Google n'a pas encore annoncé s'il comptait faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui est donc la juridiction de degré supérieur. En tout cas, ils ont déjà contesté une amende sur un autre dossier, une amende de 4,3 milliards d'euros, donc encore plus importante que celle-ci, sur l'intégration de ces services au système d'exploitation Android, qui est maintenant le système dominant sur les smartphones, sur les téléphones mobiles.
Et une dernière à propos de Google et de pratiques anticoncurrentielles à noter, on n'en a pas trop reparlé parce que c'est encore en cours, mais dans le cadre du procès contre Epic Games, Google a bien été condamné, ça a été reconfirmé ces dernières semaines. Non, pardon, Apple, excusez-moi, j'ai confondu les deux méchants. Merde, je me trompe de salopard à chaque fois. Bon, donc dans les mêmes types de pratiques, on va dire, sur les mobiles, Apple a été bien condamné récemment à autoriser l'intégration d'autres moyens de paiement sur les applications sur l'App Store. Donc une application n'aura pas l'obligation de passer par les services d'Apple et payer la taxe Apple. Donc c'est exactement le même principe, mais du coup chez la concurrence.
On continue avec les affres des géants du web avec l'Union européenne. Et cette fois-ci, c'est Frances Haugen, donc la lanceuse d'alerte, hein, qui a publié les Facebook Papers, qui a salué le potentiel énorme du projet européen de régulation du net et qui enjoint donc les États-Unis à faire de même. On considère que l'Europe est quand même souvent moquée dans le monde de la tech, dans la Silicon Valley, pour sa propension à vouloir réguler, à vouloir taxer. Mais au final, on s'est rendu compte avec leur GPD ça pouvait servir de source d'inspiration.
Le RGPD qui a été traduit d'ailleurs aux États-Unis en Californie. Je sais plus sous quel nom, mais ils ont un équivalent.
Ah ouais.
Tellement, c'est bien. Ils ont fait « Ah tiens, mais c'est pas con !» Oui, bravo, vous avez compris.
YouTube supprime le compteur de « Je n'aime pas des vidéos ». Donc, vous savez, on pourra tout... Quand vous regardez une vidéo sur YouTube, vous le faites tous. Hein. Je le sais, car nous savons tout également. Nous sommes l'œil de Sauron comme Google. Vous pouvez donc dire si une vidéo vous plaît ou pas, et donc pouce levé, pouce baissé, à peu près la même chose d'ailleurs que sur Facebook, sauf que on s'est rendu compte que ce genre de fonctionnalité était utilisée pour le cyberharcèlement. Voilà, c'est un petit pas, donc que YouTube, à la star de Facebook, s'est rendu compte que ces services en ligne pouvaient servir au cyberharcèlement. C'est bien la prise de conscience. Et donc voilà, dans les petits pas. Donc il y aura la suppression non pas de la possibilité de moincer une vidéo, mais au moins de supprimer le compteur. Et, ils ont fait une étude comparative sur le sujet, ils se sont rendus compte que si on supprimait le compteur, il y a quand même beaucoup moins de gens qui appuyaient sur le petit pouce baissé.
En fait, c'est pas seulement du cyberharcèlement que ça empêche, c'est des effets de masse. On va dire c'est le côté, je sais pas pourquoi d'ailleurs, faudrait faire des recherches, mais ça c'est dans le domaine de la sociologie, de la psychologie, donc c'est vraiment pas mes spécialités. Mais il y a quand même un côté où on est incité parce que, tiens, il y a eu des votes négatifs, je vais continuer, je vais enfoncer le truc. Même sans vouloir...
L'effet de meute, oui, c'est ça.
L'effet de meute, sans vouloir faire du harcèlement, du coup, cet effet existe et ça dévalorise complètement le travail de certaines personnes. Parce qu'il suffit qu'il y ait... une personne qui soit mal du nez, qui vote, qui mette un vote négatif, et derrière tout le monde va foncer dans le tas pour remettre des votes négatifs. Et il y a même certains cas où les algorithmes vont mettre ça en avant pour inciter les gens à réagir. Mais ça c'est plutôt dans les méthodes de Facebook. Je sais pas quelles sont les méthodes de YouTube là-dessus, vu que pour l'instant il n'y a pas eu de fuite à ce sujet.
Mais bon, en tout cas, je trouve c'est une bonne chose évidemment de prendre conscience que de pas mettre en avant des attitudes négatives, en fait, c'est effectivement c'est un petit pas, mais bon, c'est toujours un pas quand même.
On passe du contrôle européen au contrôle français, monsieur Pierre, avec le contrôle parental par défaut qui est proposé donc par la proposition de loi LREM, donc du parti majoritaire, du parti présidentiel, pour donc contrôler l'usage d'Internet et notamment l'accès aux sites réservés aux adultes.
Oui, parce que voyons, c'est bien connu, la meilleure solution pour protéger les enfants, c'est de mettre un contrôle parental sur l'ordinateur, parce que c'est bien connu, c'est des outils parfaits, il n'y a aucun problème, il n'y a jamais une fuite, et on ne trouve jamais de guide sur comment contourner un contrôle parental.
Surtout que bien souvent, les enfants sont beaucoup moins compétents sur l'usage des nouvelles technologies, en tout cas sur leur utilisation, peut-être pas sur le fonctionnement, mais sur l'utilisation, que les parents.
Tout à fait.
Alors je parle pas de
nous. Ils n'auront jamais le mot de passe pour désactiver le contrôle parental, voyons.
Parce qu'il y a nous, dire technophiles, techniciens, ingénieurs, après, je dirais, il y a les personnes qui sont simples utilisatrices, tout à fait normal, et qui, pour le coup, n'ont pas forcément les moyens, d'aller au-delà des réglages par défaut des outils de filtrage, des outils de contrôle parental.
Et justement, le but dans cette loi, c'est que l'outil de contrôle parental soit installé et activé par défaut, et qu'il faut qu'il soit désactivé ultérieurement. Alors, on peut déjà discuter sur quel est le choix d'outils, parce que certains outils, niveau respect de la vie privée, sont pas forcément au même niveau que d'autres. Hein. Certains s'amusent à renvoyer toutes les requêtes que vous faites à un serveur chez eux pour vérifier eux-mêmes. Mais du coup, toute votre activité est tracée, ce qui est un peu limite. Après, il y a des problèmes aussi techniques de comment on fait avec du trafic sur le web qui est chiffré. On trouvera, hein, on va le dire comme ça, puisque la seule solution, c'est de casser toute forme de sécurité et de vie privée. Donc, il y a un souci. Hein. Le contrôle parental, clairement, je suis pas contre l'idée qu'on surveille ce que font les enfants, mais en fait, une bonne surveillance, c'est un adulte à côté de l'enfant. C'est juste ça. On peut pas laisser sur Internet sans formation, sans éducation. Oui, c'est problématique.
C'est compliqué. Voilà. Après, ça pose aussi des questions plus de fond. Hein. Alors, on va pas y répondre ici, mais sur comment occuper les enfants, sur quand les parents travaillent, sont éventuellement fatigués. Enfin, voilà, c'est un questionnement qui est un petit peu plus complexe que dire simplement. Parce que c'est facile de répondre. Oui, bon, vous avez qu'à vous occuper de vos enfants. Bon, sauf que c'est pas là. Pas forcément si simple dans les faits.
Oui, et maintenant on peut partir sur l'aspect technique de ce projet de loi qui est bien rigolo aussi, puisque qu'est-ce qui va se passer pour, mettons, une entreprise qui vend des ordinateurs portables en proposant de ne pas installer d'OS dessus ? Ils vont devoir installer un contrôle parental sans installer d'OS. Ok ? Ça va être intéressant.
C'est compliqué.
Quand une entreprise qui te propose de t'installer ton Linux sur ton ordinateur portable. Ils vont devoir installer un contrôle parental sous Linux. Ça va être rigolo aussi parce qu'il faut en trouver. C'est pas si courant. Les solutions techniques existent. On peut mais c'est plutôt destiné à mettre ça en place sur des serveurs que pour mettre ça en place sur un ordinateur personnel. Et le dernier point, je prends ma petite voiture, mon vélo, moto ou patin à roulettes et je traverse la frontière qui est pas loin et je vais en Belgique. Si j'achète un ordinateur en Belgique et que je le ramène en France, qui c'est qui est en tort ? Puisque, a priori, il aura pas le logiciel préinstallé. Et si quelqu'un qui est en Belgique me vend directement et m'envoie par la poste un ordinateur portable, est-ce que...
Je pense que ça va être comme le respect pour les voitures, les gens qui achètent des voitures à l'étranger, hein, c'est que bon, tu court-circuites un petit peu le respect des normes. C'est peut-être des fois pour ça que les gens achètent à l'étranger.
Ben, les voitures, c'est une norme, c'est des normes au niveau européen, notamment pour les normes anti-pollution. Les...
Donc, oui. Il y a des obligations légales en France qui sont pas forcément...
Tout à fait.
En Belgique, il peut y avoir des obligations en termes de sécurité que tu n'as pas en France.
Oui, l'extracteur notamment.
Notamment.
Et tu peux acheter des voitures américaines aussi, les faire venir en fait. Mais je pense que dans ce cas-là, en fait, à mon avis, la responsabilité repose sur l'importateur. C'est-à-dire que si c'est toi qui as ramené le matériel en France, bah, c'est toi qui es responsable. Donc, c'est vrai que ça serait un peu... drôle quand même en fait que la personne qui a acheté se retrouve condamnée parce qu'elle n'a pas installé un logiciel de contrôle parental sur un PC, surtout si elle n'a pas d'enfant par exemple.
Pierre, ça va être assez rigolo quand même tout ça.
C'est l'heure. La Hadopi bouge encore, c'est pour cela qu'on fait un petit point Hadopi.
Et qu'on déterre un peu le jingle de temps en temps.
Et la Hadopi dans ses aventures propose l'extension offre légale, une extension que vous pouvez ajouter sur votre navigateur pour savoir si le site internet qui propose du contenu, donc des médias, de la musique, du film, enfin des contenus culturels, est bien approuvé par la Hadopi et respecte bien les lois françaises sur le droit d'auteur, Pierre.
Tout à fait. Alors, elle n'est pas encore disponible, l'extension, elle va arriver. Et donc ce sera un label qui s'affichera, un label vert pour dire que le site il est gentil, un label gris pour dire que le site n'est pas référencé.
Moi je serais curieux, j'essaierai tout de suite cette extension avec le site de l'Écho des Gnous, qui diffuse des podcasts. Donc comment
Je pense que nous serons gris. Tu vois.
Sera gris.
Et il faudra qu'on demande, parce qu'il y aura une procédure pour que l'internaute demande à la Hadopi. Enfin, signale à la Hadopi que le site est bien conforme. Donc, nous ferons tout le nécessaire pour que notre site soit bien reconnu conforme par la Hadopi, évidemment. Et comme ça, ils auront un signalement d'utilisateur. Ce sera nous, on sera fiers.
On va s'auto-signaler.
Exactement. Non, ça va être bien. Ils vivent encore. C'est ça ce qui est bien. C'est avant, alors qu'ils n'ont pas encore fusionné avec, avec le, c'est avec qui les fusionne déjà?
Le CSA.
Avec le CSA, CSA, ouais. C'est l'énergie du désespoir.
C'est ça, ouais. Non, c'est rigolo. Je trouve que ça manquait des petits projets de leur côté, ça les occupe. C'est bien.
Ben, c'est ça, en fait, on sait au moins à quoi servent en fait, les salaires des gens qui bossent à la DOPI, quoi.
Alors, je suis pas sûr que ce soit eux qui aient développé, je pense qu'ils ont sous-traité. Hein.
Oui, peut-être aussi.
Et ils ont eu l'idée.
Mais ils ont eu l'idée.
Des nouvelles logiciels après un premier morceau de musique, nous allons écouter Call Out Alone. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'était Cloud Alone. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. C'est l'heure de la deuxième partie des actualités et nous allons parler logiciel et bien évidemment logiciel libre. On va commencer avec la sortie de Fedora 35. Donc Fedora qui est la version communautaire de Red Hat, donc la version bêta de Red Hat, donc qui permet d'avoir en avance de phase par rapport à la distribution commerciale les dernières mises à jour, les dernières avancées, les dernières versions des logiciels libres, donc comme d'habitude, hein, donc qui dit nouvelle version de distribution, on dit nouvelle version des différents composants, notamment passage à GNOME 41, donc, avec plein de fonctionnalités nouvelles supplémentaires améliorées, des corrections de bugs, notamment la possibilité de paramétrer l'énergie. Maintenant, la plupart des gens ont un ordinateur portable, donc vous pouvez choisir un mode performance, équilibré, économie d'énergie, selon que vous avez besoin de beaucoup de ressources, beaucoup de puissance de calcul, ou vous voulez plutôt économiser la batterie de votre ordinateur, la possibilité de savoir connaître les informations de connexion mobile sur votre machine, si vous voulez utiliser la 3G, la 4G, si vous utilisez le T-Fering, donc l'utilisation de votre smartphone en mode modem, donc si vous voulez, vous pouvez paramétrer une limite de données, et plein de choses, bien sûr, du matériel, des progrès dans l'internationalisation.
J'aime pas les mots à plus de 4 syllabes.
Pardon. J'allais faire du racisme envers mon département d'origine et pas de ça chez nous, bien évidemment. Donc, un système d'exploitation qui est bien, donc ça change de. Ça change de Debian. C'est vrai que nous sommes plutôt Debianeux ici, Debian, Ubuntu. Ça permet un petit peu de diversité technique au sein des distributions Linux. Pierre.
Juste un petit élément, tu as dit au début que c'était la version communautaire de Red Hat, c'est aussi le projet Fedora, c'est aussi ceux qui, on va dire, s'occupent de marchés qui n'intéressent pas Red Hat. Par exemple, Red Hat vise vraiment l'entreprise, Fedora vise les étudiants, vise les particuliers, vise les associations, les organisations qui ne sont pas des entreprises, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas besoin d'outils qui s'intègrent avec une gestion de parc ou ce genre de choses.
C'est le nom d'ailleurs, c'est dans le nom du produit qui est commercialisé par IBM, Red Hat Enterprise Linux, forcément.
Il y a un indice.
Il y a un indice. Donc on paye pour avoir du support, pour avoir éventuellement des correctifs de bugs. Si vous en avez détecté, vous avez payé le support, ils peuvent aller faire du développement là-dessus et le reverser à la communauté. Là, effectivement, c'est l'usage plutôt individuel, bidouilleur ou pas, simple utilisateur. C'est une distribution qui est très orientée utilisateur. Il n'y a donc aucun problème pour une simple utilisation sans connaissance informatique préalable. Not invented here, ou l'attaque du ni. Pour ceux qui ont la référence culturelle, c'est donc ce titre de Pierre qui fait référence à Sacré Graal, Monty Python and the Holy Grail, que je vous invite à regarder si ce n'est pas encore fait, évidemment en version originale sous-titrée. Et pour celui-là, il n'y a pas de doublage, contrairement à la vie de Brian, où il y a un doublage que je vous interdis. Oui, je vous interdis, vous êtes libre, mais je vous interdis quand même de regarder, c'est horrible.
On n'est pas censé parler des...
Excuse-moi, tu me parles Monty Python, forcément.
Oui, oui.
On va s'écarter du sujet. Donc, System 76, donc, qui est un fabricant d'ordinateurs américains, et pas normand, comme son nom pourrait porter à confusion, veut donc que son propre environnement de bureau, codé par leurs soins, et non pas une adaptation de GNOME.
Tout à fait. Donc, les développeurs de System 76 ont annoncé récemment que... on va faire notre propre environnement de bureau. Donc du coup, il y a pas mal de gens qui ont fait « Ah bon ? Mais qu'est-ce que vous allez faire ? En fait, vous allez faire un dérivé de GNOME, parce que jusqu'à maintenant, ils utilisaient GNOME. » Et là, ils ont dit « Non, non, on va faire notre propre environnement, on va tout le développer nous-mêmes en Rust. » Donc le Rust, c'est un nouveau langage de programmation qui est assez à la mode.
Donc tu as parlé, d'ailleurs, tu as dit beaucoup de bien.
Oui, oui, tout à fait. Il a l'air assez intéressant pour quand on l'utilise, on va dire, dans les bons contextes. Mais du coup, là, par contre, l'idée, c'est... on n'est pas content du fonctionnement avec GNOME. Alors, moi, j'aime pas GNOME, donc je pourrais très bien comprendre, mais là, ils ont choisi comme base GNOME.
Pourtant, c'est le pied.
C'est exactement, exactement. Et du coup, là, ils ont dit, on n'est pas d'accord, on va faire notre propre truc. Et du côté des développeurs de GNOME, ça a été la réponse, ça a été oui, mais ils contribuent pas, en fait. Ils font des correctifs de leur côté qui contribuent pas à la communauté. On sait pas exactement ce qu'ils font. Ils mettent en avant le fait qu'ils aient fait des correctifs de leur côté sans les distribuer pour dire, regardez, nous, on a moins de bugs. C'est vrai que ça ne fonctionne pas comme ça, une communauté. Et là, en fait, c'est des plaintes, notamment par rapport au choix de conception de GNOME. Et dans la communauté, ils disent, oui, mais ils n'avaient qu'à venir aux réunions aussi. Eux, ils n'étaient pas là. Donc forcément, ben, s'ils ne sont pas venus donner leur avis, s'ils n'ont pas contribué à ce moment-là, ben oui, ça part pas dans la direction qu'ils ont voulu.
Alors sûrement, ils comptent pas, c'est pas écrit dans l'article, dans la nouvelle sur Slashdot, ils comptent pas recoder non plus une bibliothèque graphique.
Et ben
ça, quitte à tout recoder dès le début.
Oui, parce qu'il y a une petite boîte, il me semble, dans le logiciel libre, qui avait essayé de faire ça, en fait, à un moment, qui s'appelait Canonical, en fait.
C'est pas les seuls à avoir essayé ça. Hein. Ils sont nombreux à essayer de faire ça et à se prendre des murs, parce que c'est très compliqué. C'est très facile de... Tu peux aller très vite pour faire un truc simple, genre tu affiches une fenêtre avec un bouton mieux, oui, c'est facile. Mais quand tu commences à faire des vraies applications, c'est compliqué. Et pour revenir, du coup, à la question initiale d'Alexandre, c'est là aussi où je suis un peu surpris, c'est que actuellement Rust c'est pas fait pour faire des applications graphiques, il y a très peu d'outillage disponible, donc j'attends avec impatience
un de portage voir de GTK en Rust ou de Qt.
Il y a déjà des bindings qui sont disponibles, donc qui permettent d'utiliser GTK et Qt en Rust, mais est-ce que ils vont avoir un délire et ils vont partir en mode puritain jusqu'au bout pour tout réinventer? Moi j'aime bien ce genre de petite folie, parce que c'est très con, parce que System 76, bon, ils vendent du matériel préinstallé sous Linux, c'est bien, faut les encourager, mais là, s'ils commencent à avoir la folie des grandeurs comme ça, c'est personne. Mais, enfin, Ubuntu a abandonné le fait de développer son propre environnement de bureau. Ils sont pas aussi nombreux que les mecs d'Ubuntu et ils vont se manger les mêmes murs.
Non, surtout Canonical, justement. Avec Ubuntu, ils ont mis en fait des années en fait à essayer de le faire tourner, en fait pour final abandonner.
Oui. c'est un gaspillage énorme. Parce que c'est du temps de développement qui est pas mis au bénéfice de tout le monde pour en corrigeant les outils existants en faisant profiter tout le monde. Mais bon. A priori, ça les amuse.
Le navigateur de Microsoft Edge est désormais disponible sous Linux.
Oui, ouais. Alors c'est un peu surprenant quand même. Hein, c'est bon.
Oui, François saute de joie. Vous le voyez pas à l'écran, mais que vous n'avez pas, mais il saute de joie.
Déjà, je n'utilise pas Windows en fait à mon boulot. Alors.
Ça t'inquiète pas, on en parle après. Mais alors, c'est vrai que pour ceux qui ont, alors en fait, selon le nombre d'années d'expérience que vous avez, c'est plus ou moins surprenant. Il y a un pic de surprise quand on connaît surtout l'histoire de la guerre des navigateurs avec le début des années 2000 où Internet Explorer était une plaie parce que beaucoup de sites en dépendaient et qui est disponible quasiment nulle part ailleurs. Et pour les encore plus anciens, il y a peut-être le souvenir d'une époque où Internet Explorer était disponible sous Unix.
Mais mon Dieu.
Ouais.
Je l'ignore même.
Et voilà, c'était sur Solaris notamment.
Mais Internet Explorer 3, 4,
4 ou 5.
4, 4, ah quand même.
Ouais, quand même. Non mais c'est vieux, c'était une licence payante. Du coup, j'avais fait chier un prof qui avait donné à Internet Explorer un exemple de logiciel gratuit pour illustrer la différence libre et gratuit. Je lui ai dit que la licence était payante. Il était pas content. Bref, donc Microsoft Edge, le nouveau navigateur qui dérive de Chrome, donc a été rendu disponible sous Linux. Donc bon, ça fait un autre navigateur qui dérive de Chrome. Honnêtement, entre la peste et le choléra, moi je choisis Firefox, hein, faut pas déconner. Et pour les développeurs qui veulent tester des sites web avec vraiment tous les navigateurs possibles, ça peut peut-être avoir un intérêt. Et là où je trouve ça par contre assez rigolo, c'est que au même moment à peu près, on se rend compte sous Windows... C'est combien le dernier? 11
10.
Non, c'est 11 le nouveau.
Ah, le tout dernier.
Oui,
en fait.
Le nouveau, c'est le 11.
Oui, le 11, oui.
Moi, je n'arrive plus. Perds le compte maintenant.
Non, mais à force, je ne sais plus où ils en sont. Donc, dans Windows 11, Microsoft, il commence à se ressentir en confiance. Tu vois, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas pris une amende pour abus de.
Position dominante.
Position dominante, merci. On sent que ça commence à leur manquer. Du coup, il commence à y avoir dans Windows 11 pas mal d'endroits. Quand tu cliques, ça, c'est des liens qui ne s'affichent que dans Edge. Ça ouvre Edge, quel que soit le navigateur configuré sur ton système. Et jusqu'à maintenant, des bidouilleurs avaient trouvé des solutions pour que, non, ça va quand même dans le navigateur qui a été sélectionné. Microsoft a refait un patch pour dire non, c'est Edge, on a dit. Donc, non, on est bien.
Je pense que même sous Windows, enfin, tu pouvais quand même paramétrer ton navigateur Internet, enfin, les anciennes versions.
Ah, tu peux encore sur Windows 11, oui, mais du coup, plus compliqué.
Pas, oui, mais faisais pas ce coup-là, si tu mettais un autre navigateur, quand tu cliquais sur n'importe quel lien, tu avais ton navigateur par défaut.
Oui, la seule exception, je crois, c'était Windows Update, mais Windows Update, c'était un ActiveX. Bon, à l'époque de Windows XP, hein, il y a longtemps. Mais du coup, là, c'est ridicule, c'est... Allez, peu importe si tu cliques sur un truc dans l'une des applications qu'ils ont piégé, je crois même ils ont piégé genre le widget de météo, ce genre de choses. Non, ça s'ouvre dans Edge, on a dit. Pas dans un autre navigateur. Ils sont vexés, ouais, je pense. Ça doit être ça.
C'est ça. À mon avis, ils sont vexés par les statistiques d'utilisation de Edge, en fait, sous Windows 10.
C'est ça.
Non, parce qu'il faut dire que mon employeur, qui est une grande entreprise française, le navigateur recommandé officiellement d'entreprise, c'est Firefox.
Ah bah c'est bien.
Et tous les nouveaux développements web, en fait, sont faits en prenant comme base Firefox.
Moi, c'est une grande entreprise française et c'est Edge basé sur le moteur de Chrome. Comme quoi. Et pourtant, alors que c'était Firefox. On retrouve les actualités, logiciels libres. Après un second morceau de musique, nous allons écouter Brady Harris, Let's Live. Vous écoutez les Codes sur Radio Campus 106,6, la radio universitaire et campuslille.com. Let's kill each other. C'était Brady Harris, Let's Live. Vous écoutez le Codex News sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusstyle.com. C'est la troisième partie des actualités. Aujourd'hui, on va parler, ou plutôt, on va parler sur ce dernier créneau d'actualité, d'une bonne nouvelle concernant, un progrès, concernant les administrations et le logiciel libre. C'est la mise en ligne d'un portail de publication du code source développé par l'État et les collectivités locales. C'est code.gouv.fr. Donc avec, on se rend compte d'ailleurs, tiens, quelqu'un qui a écrit un journal sur l'UnixFR qui s'est rendu compte que la licence libre Cécile, donc celle qui a été écrite spécialement pour être adaptée au droit français, n'est pas très utilisée. On remarque aussi que la WTF-PL do What the Fuck You Want Public License est quelque peu utilisée.
Effectivement.
Donc, ça va. Alors, c'est imprimé à très très hétéroclite en fait. Donc, ces projets logiciels, donc ça peut être des gros projets de l'administration ou alors là du code qui était développé pour des besoins très spécifiques. Dans quelques jours, normalement, le code source de France Connect, donc le portail SSO de l'État, donc qui permet donc de via des sites de différents services publics, la Poste, la Sécurité sociale, les impôts, de se connecter avec un seul identifiant sur l'ensemble des sites. Bon, ce qui est plutôt qui est pas mal fait au final. Hein, c'est Pierre regretterait qu'il n'y ait pas l'usage du fameux certificat privé, enfin le couple clé publique clé privée dans une carte à puce qu'on aurait, mais bon, ça
on peut toujours rêver. Après, dans l'eau, il n'y a pas que du code source. Pour ceux que ça intéresse, faut vraiment aller fouiller. Il y a aussi des dépôts qui contiennent uniquement des données, mais des données à un formatage informatique utilisable. Par exemple, il y a des fichiers exploitables qui contiennent l'ensemble des lois et règlements français. Donc c'est une extraction de la base légi de la DILA. Alors, va falloir me... J'ai pas les traductions, là, au bout d'un moment, j'y arrive pas.
Hein. Je connais le portail Légifrance.
Bah, c'est une traduction, c'est les données techniques sources de Légifrance, quoi.
D'accord, ok.
Il y a de tout. C'est vraiment, faut chercher, et puis on trouve des trucs qui peuvent servir. Après, c'est assez brutal, parce que... ils peuvent pas mettre en avant tout correctement.
C'est pas contextualisé, voilà. C'est une base de données, c'est une source, c'est un puits de code source dans lequel il faut farfouiller pour trouver quelque chose éventuellement. Alors, soit qui vous intéresse, soit pour comprendre, en fait, en lisant le code, comment les données publiques peuvent être traitées.
Exactement.
On a eu l'exemple le plus parlant, c'était le code source. Alors, je sais plus si c'était admission post-bac ou ça s'appelait déjà à l'époque... le nom
Parcoursup.
De... Parcoursup, oui.
Parcoursup est absent, hein, d'ailleurs.
D'accord. Usine à gaz. Hein, on utilisera des termes polis dans cette émission. Donc, voilà. On note quand même le progrès. Alors, par les certificats, et c'est l'expiration d'un certificat qui a causé des dysfonctionnements de Windows 11. A priori, oui. Ils n'ont pas pensé à renouveler leur certificat chez Microsoft.
Tout à fait. Donc, dans Windows 11 qui est sorti il y a quelques mois, hein, et ben, il y a une série d'applications qui a commencé à arrêter de fonctionner au début du mois, puisque Microsoft signe avec un certificat numérique, ils signent leurs propres applications, et ben au premier du mois, il y a un ensemble d'applications qui sont devenues inutilisables parce que le certificat est expiré et on a oublié de renouveler à temps. Oups, pardon.
Dommage.
Quoi ?
C'est dommage.
Exactement, c'est dommage, surtout pour un système qui vient de sortir, je trouve que c'est vraiment con, quoi. Et donc, dans l'eau, notamment, il n'était plus possible, enfin, il était beaucoup plus difficile de faire des captures d'écran, parce que l'outil de capture d'écran était impacté. J'aurais bien aimé que Windows Update soit impacté juste pour me marrer. Parce que là, ça aurait été vraiment compliqué.
Tous les gens qui écrivent de la documentation pour des projets et qui ne peuvent pas faire de capture d'écran, c'est quand même très ennuyeux.
Exactement. Et donc, il y avait notamment le système de clavier tactile, la transcription vocale, le panneau d'emoji, des trucs comme ça qui étaient inopérants parce que, oups, on a oublié, chef. Moi, je le trouve très, très drôle, ce petit bug. J'aime bien.
L'Europe veut renforcer la cybersécurité des dispositifs et des produits sans fil. Belle ambition.
Belle ambition.
Chacun
oui.
sait que dans IoT, Internet of Things, le S, c'est pour sécurité.
Oui, alors moi, ce que j'aime beaucoup, il y a trois points de la part de la Commission européenne, donc je vais vous les citer. Hein. Améliorer la résilience des réseaux, donc les dispositifs et produits sans fil devront intégrer des fonctionnalités pour éviter qu'ils ne nuisent au réseau de communication et empêcher qu'ils ne soient utilisés pour perturber le bon fonctionnement d'un site web ou d'autres services. Très bien. C'est-à-dire, ça, concrètement, on ne veut pas que tous les appareils puissent se transformer en machines à faire des DDoS, ça s'appelle. C'est une bonne mesure, effectivement, il faut un minimum de sécurité pour éviter ça. Et les points suivants, les deux points suivants, je les aime bien. Il y en a un, c'est mieux protéger la vie privée des consommateurs. Donc les dispositifs et produits sans fil devront être dotés de fonctionnalités garantissant la protection des données à caractère personnel. Très bien, aucun problème. Et le deuxième point, réduire le risque de fraude monétaire. Les dispositifs et produits sans fil devront comporter des fonctionnalités permettant de réduire au minimum le risque de fraude lors des paiements électroniques. Mais du coup, pour réduire le risque de fraude monétaire, à partir du moment, c'est quand on va vouloir réduire le risque de fraude, on va devoir stocker plus de données, on va devoir stocker des identifiants, on va devoir faire plus de choses qui risquent d'entrer en contradiction avec le respect de la vie privée. Donc comment qu'on fait ? Il va falloir m'expliquer là les gens, ça me semble un peu bizarre votre demande. Je sais pas du coup où est-ce que ça va trancher.
Moi j'ai une petite idée de où le curseur va pencher.
Oui moi aussi, moi aussi.
L'intuition.
Possible.
Là où il y a des sous. Mais en tout cas, au moins il y a quelque chose qui veut, enfin, ils souhaitent mettre en place quelque chose. Donc l'idée c'est que des nouvelles règles entrent en vigueur, ben. Après une période d'examen de 2 mois, si le Conseil et le Parlement sont d'accord, etc. Et ensuite une période de transition prévue de 30 mois pour que les fabricants se conforment aux nouvelles exigences légales. Donc on parle de quelque chose qui n'arrivera pas avant, du coup, au mieux la mi-2024, mais c'est toujours mieux que rien.
On va terminer les actualités avec un petit point sur l'utilisation des fonds collectés avec la redevance copie privée, le gouvernement veut imposer aux smartphones reconditionnés. Vous avez payé la redevance copie privée, vous allez la repayer. C'est un petit peu la CSG de la taxe.
Ils l'ont pas que, ils veulent pas, ils l'ont imposé, je crois. C'est passé, hein ?
Oui, j'ai passé définitivement. En tout cas, c'est en phase d'être.
C'est sur la dernière ligne droite.
Sur la dernière ligne droite, en tout cas.
Donc, si on regarde donc comment a été utilisé ces fonds sur l'année 2020, on se rend compte que notamment ça a permis de financer un disque de Johnny Hallyday.
Tout à fait. Il est pas mort.
C'est bien de presque. Voilà de financer la création contemporaine.
Donc, pour rappel, sur l'année 2020, alors tout ça, je me base sur un article.
Bon, on n'a rien personnellement contre Johnny Hallyday. Hein.
Tout à fait.
Alors, mis contre sa musique, mais bon, ça, voilà. Après, c'est autre chose.
Donc, je me base sur un article de l'excellent Next Impact. Hein, je donne ma source, parce que là, vraiment, ils ont fait un très bon article qui reprend l'ensemble des éléments.
Article de Marc Ress, comme d'habitude, très complet.
Très, très complet.
Alors, des fois, difficile à synthétiser, parce que c'est très complet.
Oui, là, on va juste parler de 2-3 sujets, juste pour mettre l'eau à la bouche, et puis après, si vous voulez aller rire un petit peu, vous pourrez essayer d'aller lire le document complet. Donc, sur l'année 2020, il a été perçu 273 millions d'euros pour au titre de l'aide à la création, donc de quoi financer quand même pas mal d'artistes normalement. Et donc sur ces 273 millions, il y a eu des enveloppes quand même assez intéressantes, notamment Universal Music France, donc une petite TPE. Il n'y a pas d'autre mot, c'est la TPE du coin, il se lance, c'est un nouveau label
indépendant.
C'est bien,
un petit label émergent, c'est bien.
Voilà, il faut toujours les féliciter pour ça. Et donc, pour Johnny Symphonic 2, ils ont perçu 216 859 euros. Warner, pour le dernier Warner autre. Alors là, ils sont un peu plus gros, c'est une PME, hein, c'est le label indépendant qui est lancé depuis quelques années, du coup, et commence à être un peu connu. Donc Warner a encaissé 181 742 euros pour le dernier album de Johnny. Mais c'est quoi c'est... Moi, en fait, je comprends pas les quantités qui sont distribuées, ça me semble complètement délirant. Et c'est des artistes comme Johnny Hallyday, même. Enfin, je comprends pas qu'il y ait le moins de financement qui soit nécessaire, puisque ça vend tellement que c'est a priori c'est rentable. Et donc là, à quoi sert le financement en fait ? Et là, je comprends vraiment pas.
Demande à Laetitia, elle devrait savoir.
Ouais, voilà, elle devrait savoir, mais c'est
en quoi, en fait,
rien de personnel, hein, comme toujours.
Et en quoi ils ont besoin d'aide à la création, quoi, en fait, justement, ces gens-là. Ben ils sont déjà créés, ils sont.
Non, l'aide à la création, ça sert justement à permettre la diversité musicale, la diversité des styles, permettre à des artistes moins commerciaux, qui vendent moins, qui proposent, qui prennent des risques, musicalement parlant, d'exister et de pouvoir trouver leur public, au moins un public.
Bah, c'est vrai que Johnny doit trouver un nouveau public, hein, sous terre, donc différents... Non. On m'a déjà dit pas ce genre d'humour.
Ah, on a dit quand même, on s'attaque pas aux morts.
Ça donne envie quand même.
Oui, mais on va se retenir. La dégeekalisation, c'est juste après Ben Lucas, Love of My Life. Vous écoutez les Connectnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. Ben Lucas, Love of My Life. Vous écoutez les Connectnous sur Radio Campus 106,6. Ça n'a pas changé depuis le début de l'émission. Campuslille.com et la radio numérique terrestre, le DAB+, pour être plus précis. C'est l'obligation légale, on doit vous rappeler ça à chaque fois. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, une question intéressante. Comment avoir confiance dans la chaîne de production des logiciels? Parce que, effectivement, vous ne relisez pas tout le code source de ce que vous avez fait. On fait confiance, par exemple, le projet Debian, on fait confiance au fait que c'était packagé par des gens du projet et que ça a été relu. Et d'où vient cette confiance, Pierre? Tu vas nous l'expliquer.
Mais attention, Alexandre, c'est même pire que ce que tu viens de
dire.
Pire
que ce que j'ai dit.
Tout à fait. Alors, c'est bien ici, j'ai plus de personnes que d'habitude, ça va m'aider, j'ai plus de chances qu'il y ait un souvenir. Si je vous dis W95.CIH.
J'en ai pas la moindre idée.
Perdu. Allez, Tchernobyl. Allez.
Ah oui, c'était un virus. Oui, c'était.
Oui.
Oui, c'est Tchernobyl. Oui, j'ai un vague souvenir.
Voilà. Vague. Oui, vague. Je parle d'un virus informatique des années 98. J'ai la fiche Wikipédia sous le nez. Parce que je me souvenais plus de la date. Hein, faut pas déconner non plus. Et quel est le rapport? Pourquoi est-ce que je suis allé chercher, déterrer ce vieux bout de code moisi qui avait été fait par un Taïwanais qui avait eu envie de s'amuser? Pourquoi que je déterre ça? Quel est le rapport avec mon sujet? Allez, François, est-ce que tu te souviens peut-être? Ouais, non, ça date. Hein.
Non, je dois avouer que...
Alexandre, ça te parle pas non plus?
Non.
Vraiment, faut que je trouve des gens plus vieux pour traîner.
Désolé, Pierre.
Du coup, donc, pourquoi parler de ce virus ? Il a été assez connu à l'époque parce qu'il avait fait pas mal de bruit pour sa propagation, parce qu'en fait, il avait été diffusé par des éditeurs de jeux vidéo, notamment. Des démos des éditeurs de jeux vidéo étaient corrompus et infectés. Des magazines ont eu des... Parce qu'à l'époque, on distribuait des CD dans les magazines avec les logiciels dessus. Des CD de magazines avaient été corrompus et infectés par le virus. Et donc, quand on mettait le CD et qu'on lançait les programmes infectés sur le
ordinateur... C'est vrai que c'est rare, au final. Je sais que quand j'ai commencé l'informatique, enfin, commencé dans les années 90, c'est vrai qu'on avait peur des disquettes infectées, ce genre de choses. Mais on s'est rendu compte assez vite que la principale source de virus, c'était quand même Internet, les pièces jointes. C'était rarement, en fait, tu avais rarement le risque d'attraper un virus qu'en mettant le CD d'un logiciel.
Tout à fait. Donc, c'était un petit exploit qu'il soit allé jusque-là et qu'il ait contaminé autant de logiciels. Alors, après, il est nommé Tchernobyl parce qu'il avait une particularité, c'est qu'il s'activait le 26 avril. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir le virus pendant des mois sur la machine, il pouvait se répandre. Sans s'activer, il suffisait d'avoir le virus qui soit installé au mois de mai et il pouvait se répandre pendant 11 mois sans rien dire. Mais du coup, pour revenir à notre sujet, ce qui est intéressant, c'est que l'éditeur qui diffusait sa démo de jeu vidéo et que la démo de jeu vidéo était corrompue avec un virus. Mais l'éditeur, son code source était correct. Il a rien fait. Il a fait un logiciel qui était très bien. Et puis, peut-être en tout cas. Et le logiciel a été diffusé, et c'est entre le moment où l'éditeur, enfin le développeur, a dit « Ok, mon code est correct, je l'envoie », et le moment où le code est arrivé, compilé dans la machine de l'utilisateur final, c'est là qu'il y a eu une couille dans le potage, pour parler poliment. Et du coup, quoi qu'on fait ? Comment on peut faire pour avoir confiance dans cette chaîne ? Alors, dans le cas du logiciel propriétaire, la réponse est simple, prier.
Vous devez faire confiance à l'éditeur du logiciel.
C'est une base.
Et au distributeur du logiciel, celui qui a pressé le CD.
Dans le cas d'un CD, si on prend dans le cas d'une diffusion par Internet, il faut avoir confiance sur le fait que ça n'ait pas été altéré. Alors maintenant, il y a des signatures numériques, mais c'est automatisé chez les vendeurs de, enfin chez les entreprises comme Microsoft ou Apple ou autre. Quand ils signent des logiciels, c'est pas chaque développeur qui signe avec sa petite clé à lui. Il y a une signature centrale, et donc. Ils ont un processus, ils ont des contrôles, etc. Mais il n'y a pas de possibilité pour vous d'être certain à 100% de ce qui tourne, de ce que vous avez reçu.
Après, vous faites confiance aussi au fait que Microsoft n'a pas spécialement d'intérêt à diffuser des logiciels avec des virus.
Non, ils diffusent des merdes, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà, c'est un intérêt économique avant toute chose. Dans le cas du logiciel libre, par contre, là, on peut commencer à se... Le jeu est déjà plus intéressant, puisqu'on a plus d'éléments, on sait déjà plus de choses. On sait obtenir le code source, on sait obtenir des instructions pour reproduire, recompiler le logiciel. Alors, on va pas rentrer dans tout le détail de « oui, mais est-ce que je peux faire confiance à mon compilateur ?» Là, on peut très bien, alors ça devient du débat philosophique quasiment.
Est-ce que je fais confiance à mon microprocesseur aussi ?
Tout à fait. Donc,
il n'y a pas un jeu d'instructions tapis dans un coin quelque part qui corromprait mon code.
Tout à fait. Ces niveaux de paranoïa là, ils existent, ils sont légitimes dans certains domaines. C'est pour ça que des pays comme la Chine s'amusent à fondre leurs propres processeurs pour certains besoins militaires notamment, en prenant des processeurs américains dont le code source est disponible, et en disant « Alors, par contre, la partie chiffrement, on va mettre la nôtre. Hein, on va pas laisser le chiffrement américain. »
Oui, enfin, le chiffrement souverain, c'est quand même la base. Mais bon.
Tout à fait. Mais du coup, pour revenir à du particulier, moi, quand je reçois mon logiciel sur, notamment sur une Debian, je reçois un paquet, je vérifie, le système vérifie automatiquement que le paquet est signé. Le paquet a été reçu, que c'est bien le paquet tel qu'il avait été envoyé sur le serveur. Mais est-ce que ce qui a été envoyé sur le serveur, ça correspond au code source du logiciel que j'ai là ? C'est un problème. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Je recompile le code source.
Ça se fait d'ailleurs dans certains usages très précis, où on a besoin d'une grande confiance, on recompile tout.
Tout à fait. Et problème.
Après, il faut aussi relire le code.
Tout à fait, mais je recompile le code et je me rends compte que ça génère pas exactement le même binaire que celui qui m'avait été envoyé. Qu'est-ce que je fais ? C'est où il est le problème ? Et c'est là qu'on arrive sur un projet, parce qu'on n'en parle pas trop, parce que c'est un projet très technique de la part de Debian, mais je trouve que c'est important de mettre ce genre de projet en avant, c'est aussi pour ça un peu que je fais cette dégeekalisation. Il y a un projet chez Debian qu'on appelle les Reproducible Builds, donc les constructions reproductibles de paquets. L'idée, c'est qu'on vous donne tous les éléments, et vous savez que si vous avez tous ces éléments-là, que si vous avez le code source, telle version du compilateur, telle version du système, vous recompilez, vous allez obtenir au bit près le même résultat. Ce qui vous permet, et c'est seulement avec ce genre de système, que vous pouvez avoir vraiment confiance dans la chaîne de production d'un logiciel. Et je me doute que personne ne va aller jusqu'à vérifier tous les logiciels. D'ailleurs, actuellement, le projet Debian a atteint... C'est un petit peu triste parce qu'ils ont pas mal avancé dessus ces dernières années, mais là, cette année, ça a pas beaucoup progressé malheureusement. Ça a même un tout petit peu régressé en nombre. Ils ont à peu près entre deux tiers et 7/8 des paquets sur Debian qui sont reproductibles. C'est-à-dire que vous téléchargez le code source et vous pouvez reproduire exactement la même chose. Et donc, vous pouvez être certain que ce qui tourne sur votre machine, eh ben, vous savez ce que c'est. Vous pouvez le vérifier vous-même. Même si vous le vérifiez pas vous-même, savoir que vous pouvez le vérifier, c'est déjà, je trouve, une sécurité en soi. Et donc, ça mérite d'être mentionné.
C'est ça, avec le logiciel libre. Hein, c'est que le principe, c'est que même Pierre, qui est un développeur chevronné, ne relie pas le code de tout ce qu'il utilise comme logiciel. Pourtant, le fait que ce code il est public, puis être lu, et bon, notamment le noyau, on sait très bien que c'est relu par des développeurs du noyau, peut-être même des fois par Linus Torvalds. Le fait que le code puisse être lu, c'est justement ce qui nous donne confiance.
Tout à fait.
Ce qui est quelque chose d'assez peu intuitif, on rappelle toujours, un des arguments utilisés contre le logiciel libre, c'est oui, si tout le monde peut lire le code, on peut voir les failles de sécurité, mais du coup, on peut les corriger plus facilement.
Mais donc, avoir confiance dans le code source, c'est une chose. Avoir confiance dans ce qui nous est envoyé comme transformation du code source, puisque le code source,
ouais, c'est la même logique.
Ça marche pas.
Oui, c'est on n'est plus au même niveau, mais c'est la même logique.
Mais c'est un niveau, c'est pas courant, effectivement, le projet Debian est assez innovateur là-dessus. Aujourd'hui, c'est pas imposé de leur côté parce que ça supprimerait quelques milliers de logiciels de la distribution, ce qui est pas du tout dans les objectifs, mais ils aimeraient bien à terme que ce soit obligatoire, qu'un logiciel intégré sur Debian doit être reproductible. Et accessoirement, j'ai envie de dire, ça ferait du bien parce que de plus en plus, on voit arriver sur le marché des logiciels libre avec des très très grosses pincettes, hein. Moi j'ai envie de dire c'est plus des logiciels open source que libre, hein, notamment les produits de chez une entreprise qui s'appelle Microsoft. Et donc ces produits là alors si vous regardez, si vous voulez les recompiler chez vous, des fois ça demande à se connecter à des serveurs Microsoft. On a oublié de vous mettre à disposition ce code là on va l'ajouter. On a oublié ça, non mais là ça prend un binaire, c'est bon, il n'y a pas de problème. Microsoft n'a pas cette politique-là du reproductible et je trouve que c'est quelque chose qui manque pour avoir réellement confiance dans le logiciel. Et dans le cas de Debian, du coup, s'ils se mettaient à l'imposer, il y a des logiciels qui partiraient à la poubelle et
Oui, tu verrais pas ça d'un mauvais œil.
Moi non, je serais content. C'est bon débarras.
Merci Pierre pour cette décalisation. On n'est pas en retard pour une fois.
Non, pour une fois, on n'est pas en retard. Oui, on peut faire un agenda tranquillement.
On peut faire un agenda. Donc, c'était donc l'agenda des du mois. Merci.
Oui, on a un problème. On n'a plus d'agenda parce qu'il n'y a plus trop de
permanence. Et vous que les confinements ont quand même pas fait beaucoup de bien là-dessus. Alors, je sais pas. Y aura-t-il quelqu'un de l'association ou quelqu'un passionné de logiciels libres qui sera au Café Citoyen le dernier mardi du mois? Je ne pourrais pas vous le dire. Essayez,
si
au pire, au pire.
Si la réponse, faut répondre tout de suite sur IRC, vous avez 30 secondes.
Vous avez 30 secondes, oui, ce sera donc le mardi 30 novembre. Bon, au pire, vous pourrez boire une boisson bio équitable dans un cadre fort sympathique. Vous n'aurez pas perdu votre soirée. C'était donc le 229e numéro de l'Écho des Gnous et on a eu le plaisir d'avoir François, un ami de passage, qui reviendra, bien évidemment. longtemps mais, hein, qu'on lui a proposé, parce qu'à chaque fois, il repart un peu plus tôt. Et
mais François, question importante que tout le monde se pose. À quand le retour de la phase B?
Oui, alors François a quitté la phase B suite à son départ de la région. Donc, voilà, s'il y a deux personnes qui veulent une semaine sur deux parler de sujets plus de fond, c'est vrai que nous, on est, la phase A, c'est la partie actualité, et c'est vrai que la phase B et ses sujets un peu plus creusés sur une thématique précise, c'était quand même quelque chose d'important. Donc,
N'hésitez pas,
peut nous faire signe. Et je rappelle que nos podcasts sont désormais consultables sur le site web de l'émission ecodegnou.org. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Au revoir à tous. Rendez-vous dans deux semaines.
Bye bye.
Au revoir.